Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 20, le sacrement de l'ordre. Alors nous passons maintenant au chapitre 3 de cette partie sur les sacrements, qui traite des sacrements au service de la communion et de la mission. On avait vu les sacrements de l'initiation, donc baptême et Eucharistie, et confirmation. Nous avions vu ensuite les sacrements de la guérison, donc la pénitence, ou le sacrement de réconciliation, et puis l'extrême onction ou l'onction des malades. Il nous reste maintenant les sacrements au service de la mission, à savoir le sacrement de l'ordre, dont on va commencer l'étude aujourd'hui, et puis ensuite le mariage. Alors, ces sacrements au service de la communion et de la mission, quels sont-ils? Il y a deux sacrements, l'ordre et le mariage, qui confèrent une grâce spéciale pour une mission particulière dans l'Église, au service de l'édification du peuple de Dieu. Ils contribuent en particulier à la communion ecclésiale et au salut d'autrui. Voilà une belle définition de ces deux sacrements, une définition plus générale, plus générique, mais qui montre bien que ces sacrements ont une visée missionnaire. La construction de l'Église, donc ce qui est appelé ici la communion ecclésiale, et le salut d'autrui. Qu'on soit marié, père et mère de famille, ou qu'on soit prêtre, eh bien on a une certaine responsabilité sur le salut des autres. Et qui donne une responsabilité, qui donne une certaine autorité, qui donne un certain nombre de droits, mais aussi évidemment un certain nombre de devoirs. Alors commençons par le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce que le sacrement de l'ordre? On va diviser cette étude de l'ordre en trois épisodes, et puis pour le sacrement du mariage, on prendra aussi le temps évidemment, parce que sans doute cela vous intéresse davantage de monde, disons proportionnellement, que le sacrement de l'ordre. Néanmoins, il est évidemment très important d'avoir un juste regard sur ce qu'est le prêtre et sur sa mission. Alors, qu'est-ce que le sacrement de l'ordre? C'est le sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Alors, on a déjà ici une affirmation qui est riche de portée, puisque c'est le Christ qui a ordonné les prêtres, qui a conféré à certains hommes le sacrement de l'ordre. Pourquoi je dis que ça a des conséquences importantes? Parce que, évidemment, il y a certains chrétiens, certains protestants qui nient le fait que le Christ a institué l'ordre comme un sacrement. Et qui affirment que simplement les pasteurs, ce sont des hommes comme les autres, ou des femmes d'ailleurs pour certains, comme les autres, qui vont simplement assumer un rôle de gouvernement ou d'organisation, ou même de célébration du culte, parce qu'ils sont délégués par le peuple. Ici, c'est une vision tout à fait différente. L'Église catholique affirme que le Christ a confié une mission particulière à certains hommes, donc pas à tous les hommes, mais à certains apôtres, et qui continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Parenthèse, on reviendra sur cette question évidemment, mais le fait qu'il n'y ait que les hommes qui puissent être prêtres. Vous voyez ce qui est affirmé ici? C'est pas les hommes qui peuvent être prêtres. C'est le Christ qui a choisi certaines personnes, certains hommes, mais tous les hommes ne peuvent pas être prêtres. Donc l'argument de dire pourquoi il n'y aurait pas des femmes qui pourraient être prêtres, c'est un argument qui est déjà faux dès le départ, parce que c'est pas les hommes qui choisissent d'être prêtres, c'est le Christ qui confie une mission à certains. Et on verra que c'est là que tout se joue. La phrase d'ailleurs du Christ lui-même, hein, qu'on répète le jour de l'ordination, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Là, évidemment, vous voyez où je veux en venir, c'est que le sacerdoce c'est une mission, donc c'est une vocation. Certains sont appelés par Dieu à avoir une mission particulière. Et tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde n'est pas appelé. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation des prêtres, lorsqu'on rentre au séminaire, on vient examiner si on est vraiment appelé. Mais cet appel ne se concrétise que le jour de l'appel de l'évêque. D'ailleurs, symboliquement, dans le rituel de l'ordination, il y a cet appel, c'est l'évêque qui appelle par son nom chacun des candidats et qui répond « Adsum, je suis présent ». Et puis ensuite, par exemple, pour le célibat, au moment du sous-diaconat, eh bien, symboliquement, le futur sous-diac fait un pas en avant pour montrer qu'il répond à cet appel de l'Église. Parce que Dieu n'appelle pas comme ça l'esprit de chacun, parce qu'on peut se faire des illusions, évidemment. Et certains pensent qu'ils sont appelés, et puis ils réalisent qu'en fait, ils ne sont pas appelés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, dans les séminaires, il y a beaucoup de jeunes qui entrent au séminaire, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont la vocation. Ils viennent, ils se présentent d'ailleurs avec générosité et volonté et bonne volonté. Et mais si l'Église leur dit qu'ils n'ont pas la vocation, eh bien, et ça c'est la responsabilité de évidemment de ceux qui ont l'autorité dans l'Église, qui sont en charge des candidats au sacerdoce et qui vont dire oui de façon raisonnable selon les critères humains. Là encore, il y a un très beau texte dans le rituel de l'ordination traditionnelle qui dit l'évêque dit pour autant que je peux en juger avec mes faiblesses humaines, eh bien je crois que la personne qui m'est présentée a les capacités pour être appelée à répondre à cette mission que lui confie le Christ à travers l'Église. Donc vous voyez, c'est une mission confiée par le Christ à ses apôtres. Donc le Christ a ordonné prêtres ses apôtres, les 12 apôtres. Quand ça? Au moment de la scène, quand il leur dit faites ceci en mémoire de moi, quand il leur dit tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux, ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Donc le Christ a confié cette mission à ses apôtres, et puisqu'il leur a confié le fait de continuer son œuvre dans le temps, eh bien les apôtres vont à leur tour sacrer d'autres évêques ou ordonner certains hommes à devenir prêtre. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans la personne des apôtres, il n'y a aucune différence entre évêque et prêtre. On va expliquer qu'il y a différents degrés dans le sacerdoce et que, mais la plénitude du sacerdoce, c'est l'évêque qui le possède. Et, en tout cas, dernière chose, donc c'est cette mission confiée par le Christ aux apôtres qui continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Donc, les évêques, au sens strict, sont les successeurs des apôtres. D'ailleurs, chaque évêque peut dire qui l'a ordonné et ainsi de suite et remonter ainsi jusqu'à un apôtre. Tous les évêques du monde, il y a aujourd'hui dans le monde peut-être 5000 évêques, tous les évêques du monde, quelle que soit leur valeur personnelle, et ça c'est très important, continuent la mission que le Christ a confiée à ses apôtres. Alors ensuite, certains accomplissent bien cette mission, d'autres l'accomplissent moins bien. Ça, c'est la réalité humaine. Mais la mission, au départ, est bien celle que le Christ a confiée à ses apôtres. Alors pourquoi appelle-t-on ce sacrement le sacrement de l'ordre ? Ordre indique un corps d'Église dans lequel on est intégré au moyen d'une consécration spéciale, qu'on appelle l'ordination. Donc par un don particulier du Saint-Esprit, cette consécration permet d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité du Christ pour le service du peuple de Dieu. Donc là encore, il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait que on est intégré par l'ordination à un corps de l'Église. C'est-à-dire que les prêtres, il n'y a aucun prêtre indépendant. Et on n'ordonne pas un prêtre en lui disant va faire ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle un prêtre vagus dans le langage canonique. Ça n'existe pas. Dans l'Église, tout prêtre, puisque c'est une mission qui est donnée par l'Église, eh bien, il y a une hiérarchie. Et tout prêtre est ordonné, il est mis dans un ordre. C'est comme dans l'armée, vous n'avez pas des généraux qui sont tout seuls, qui ne répondent à personne, vous n'avez pas des colonels comme ça qui arrivent et qui donnent des ordres aux gens. Ça s'appelle des mercenaires. Dans l'Église, en fait, le sacerdoce ne s'exerce que sous l'autorité, alors soit d'un évêque directement, soit d'un supérieur, quand c'est un ordre religieux ou une communauté cléricale, mais toujours, n'importe quel prêtre répond de son travail, de son œuvre à un supérieur. C'est d'ailleurs l'une des... Encore, je fais une parenthèse, mais... oui, c'est le problème de par exemple des prêtres vagus, vagi en latin, enfin au pluriel, mais un prêtre vagus, c'est un prêtre qui ne répond à personne. C'est-à-dire que il tient son ministère de lui-même et personne n'a de contrôle sur ce qu'il fait. Et c'est le drame de certains prêtres hein, qui se sont détachés de leur autorité, qui ont quitté leur évêque, qui sont mis à faire leur ministère tout seul dans leur garage. Par exemple, les prêtres qu'on appelle cédévacantistes, Il y a un prêtre là récemment qui a fait une vidéo contre moi où il appelle l'abbé Raffray démasqué. Du coup, tout le monde se précipite pour voir ce qui a été démasqué. Et ce qui est, et donc c'est un prêtre qui ne répond à personne, qui a été ordonné prêtre par un évêque sans aucune mission et qui donc ils ne reconnaissent pas, on les appelle cédévacantistes parce qu'ils considèrent que le siège de Pierre est vacant, donc il n'y a pas de pape. Et ou que le pape n'exerce pas son autorité. Et donc, ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape, donc ils ne reconnaissent pas l'autorité des évêques. Donc, c'est des gens qui vont, disons, voler l'ordination, puisqu'ils ne sont pas ordonnés. Enfin, ils ont été ordonnés prêtres, ils sont bien prêtres, parce que souvent, ces ordinations sont valides. Mais ils exercent un ministère de leur propre chef, et pas du tout dans l'ordre de l'Église. Et c'est ça qui fait que, bah, souvent, soit ils racontent n'importe quoi, soit ils font n'importe quoi. Et en tout cas, ils ne travaillent pas pour l'Église. Ils travaillent contre l'Église. C'est des mercenaires qui travaillent pour leur propre intérêt, soit l'intérêt de leur petit groupe, soit l'intérêt de leurs idées, soit l'intérêt de leur intérêt personnel pour avoir leur fidèles. Et puis voilà, comme un de façon sectaire, quoi. C'est-à-dire que c'est des prêtres qui réunissent des fidèles qui se font avoir parce qu'ils sont séduits par ce prêtre, mais ils n'ont pas l'autorité de l'Église. Donc, je ferme cette parenthèse, mais vous voyez que le nom même du sacrement de l'ordre implique qu'on soit intégré dans la hiérarchie officielle de l'Église. Alors, cette ordination se fait par un don particulier du Saint-Esprit. C'est une consécration qui donne un pouvoir sacré, enfin, qui permet d'exercer un pouvoir sacré au nom et par l'autorité du Christ, pour le service du peuple de Dieu. D'où la responsabilité immense, évidemment. Mais c'est un don, exactement, donc c'est une grâce reçue dans l'âme, c'est aussi un sacrement qui donne un caractère à l'âme. Vous vous souvenez qu'on a étudié le baptême et la confirmation. On a dit que le baptême marquait l'âme d'une façon particulière, d'un caractère qui est indélébile. On peut pas l'effacer. Il faudrait frotter l'âme, comme l'âme est immortelle et spirituelle, donc elle n'a pas de partie, donc on peut pas l'enlever. Et ce caractère, donc on reçoit un caractère au baptême, à la confirmation, pardon, et puis alors pendant l'ordination. Donc voilà le sacrement de reçu au moment de l'ordination marque l'âme de façon indélébile. C'est pendant l'ordination, la cérémonie d'ordination, l'évêque prend le Saint-Crème et puis il enduit les mains du prêtre, puisque c'est les mains qui vont donner ce pouvoir sacré, donc qui vont permettre de donner l'absolution des péchés pendant le sacrement de la pénitence, de consacrer les espèces eucharistiques pendant la messe. Et donc l'évêque prend le Saint-Crème et puis recouvre les mains, l'intérieur des mains, les paumes des mains avec le Saint-Crème, et puis ensuite il joint les mains et puis on entoure les mains du candidat avec un linge blanc. Qui d'ailleurs dans les traditions, alors c'est pas une tradition romaine, mais c'est une tradition plutôt hispanique, mais aujourd'hui ça s'est beaucoup répandu. Une fois que ensuite, parce que le prêtre avec les mains jointes comme ça liées, eh bien va toucher le calice et la patène, et pour signifier justement le pouvoir sacré qui lui a été confié. Et puis ensuite, la tradition, donc, c'est que c'est la mère du nouveau prêtre qui va soit dénouer le linge blanc, ou en tout cas le garder. Et la tradition veut que la mère d'un prêtre soit, lorsqu'elle est enterrée, lorsqu'elle est inhumée, eh bien, qu'on joigne aussi ses mains avec le linge qui avait joint les mains de son fils prêtre au moment de l'ordination. Donc vous imaginez que ma mère garde très précieusement ce linge qu'on avait fait broder exprès, etc., avec la date, et qui est affiché qui est sous verre dans un cadre dans le salon, et que ma mère tient absolument le jour où elle sera enterrée, d'être enterrée avec ce linge autour des mains. Parce qu'évidemment, c'est une grande fierté pour la mère d'un prêtre que son fils ait été ordonné prêtre. Je ferme la parenthèse. Je vous raconte toujours un peu ma vie dans ces podcasts. Qu'est-ce que je disais? Donc, la consécration, voilà, ça marque quelque chose. Alors, pourquoi je racontais tout ça? Parce que, évidemment, cette consécration de l'huile des mains du prêtre est indélébile. Et je racontais ça parce que Quand un prêtre va mourir et qu'il reçoit l'extrême onction, dont on a parlé dans l'épisode précédent, dans les épisodes précédents, eh bien, les onctions, on l'a dit, doivent être faites dans la paume des mains. Mais comme le prêtre a déjà les mains consacrées par l'ordination, eh bien, c'est une exception. Le prêtre, lorsqu'il reçoit l'extrême onction, eh bien, il reçoit l'onction de l'huile des infirmes. Celui qui donne l'extrême onction fait des croix, non pas dans la paume des mains, mais à l'extérieur de l'autre côté, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais sur l'extérieur des mains, pour signifier que il est prêtre. D'ailleurs, tiens, une autre particularité qui me vient à l'esprit et en lien avec le sacerdoce, c'est que les tout défunt lorsqu'il est pour une messe d'obsèques, eh bien, on met toujours les pieds du défunt face à l'autel, parce que c'est comme cette messe. Enfin, il est commun, comment dire. C'est pour faire comme pour faire face à Dieu. Vous voyez, tous les fidèles sont tous tournés dans la même direction vers l'autel. Eh bien, le défunt est toujours placé avec les pieds vers l'autel de la même façon, parce que il fait face au jugement de Dieu. Eh bien, les prêtres, ça aussi c'est une particularité. Lorsqu'un prêtre est enterré, on met pas le cercueil dans le même sens, mais on met le cercueil avec les pieds face à l'assemblée, parce que d'une certaine façon, ce qui va juger le prêtre, c'est ce qu'il a fait, c'est sa mission par rapport au peuple, au service du peuple de Dieu. Et donc c'est ceux au service duquel il a été missionné qui vont juger de ça, enfin, qui vont être le critère de jugement de son salut éternel. Voilà une particularité aussi. Donc ah oui, et cette consécration, alors je termine mon histoire, cette consécration des mains, de la paume des mains, donc au moment de l'ordination, il y a un prêtre qui m'a raconté un vieux prêtre qui racontait que il était un jour il est appelé auprès de quelqu'un d'un paroissien qui venait à la messe tous les dimanches, même plus dans la semaine aussi, tout seul, et il est en train de mourir, et donc il va lui donner l'extrême onction, et au moment de faire les onctions sur les mains, la personne âgée qui était en train de mourir tourne les mains dans l'autre sens et lui dit faites-moi les onctions sur l'extérieur des mains, mes paumes ont déjà été bénies, déjà été consacrées. Donc c'était un prêtre qui avait abandonné le sacerdoce, non, je sais pas du tout pour quel motif ni quoi que ce soit, mais il avait conscience qu'il restait prêtre toute sa vie. Donc même ceux qui abandonnent le sacerdoce, dans certains cas, ils peuvent même avoir l'autorisation de se marier. Lorsqu'on est réduit à l'état laïque, on dit plus réduit à l'état laïque, on dit maintenant dispensé des obligations cléricales, mais certains peuvent même être dispensés du vœu de célibat, c'est très rare, mais lorsque c'est le cas, bah, la personne reste quand même prêtre pour toute sa vie. Et alors on n'a pas le droit de célébrer les sacrements, évidemment, n'a pas du tout ce droit-là, sauf par exemple dans un cas de danger de mort, le prêtre pourrait donner une absolution à quelqu'un, même s'il a été relevé de ses vœux ou relevé de son célibat et de l'exercice de l'ordre. Alors bon, là, je suis parti un peu loin, mais en tout cas, vous voyez, c'est tout ça pour dire que cette consécration, elle est définitive, elle marque l'âme de la personne qui la reçoit et lui confère un pouvoir sacré. Un pouvoir sacré, c'est-à-dire au nom et à l'autorité et par l'autorité du Christ. Voilà, quand j'en ai déjà parlé dans les autres sacrements, mais quand le prêtre donne l'absolution, il ne dit pas le Christ te pardonne ses péchés. Il dit je te pardonne tes péchés. Et quand il parle, il dit je, c'est évidemment pas le prêtre, mais il parle au nom du Christ, in persona Christi. Quand le prêtre célèbre la messe, on l'avait déjà dit aussi, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ». Alors évidemment, ce n'est pas son corps à lui, mais il parle, là encore, in persona Christi, il parle comme si c'était le Christ qui parlait à travers lui. Et c'est ça le pouvoir sacré qui lui est conféré par l'ordination sacerdotale. Donc vous voyez la différence avec un pasteur ou avec un imam qui est juste celui qui va prendre la tête de la prière en disant faites comme moi. Là il y a dans l'Église catholique, dans la foi de l'Église catholique, il y a quelque chose de bien plus profond, qui est que certains ont été choisis et sont transformés intérieurement et un pouvoir sacré qui est d'agir, qui leur est donné, et ce pouvoir c'est le fait de pouvoir agir au nom du Christ, dans certaines circonstances très précises. Et comme on le verra, comme je reviendrai là-dessus, mais évidemment le danger, c'est quand le prêtre prétend agir au nom du Christ en dehors de ce pourquoi il a été missionné. Ou quand les fidèles voient le prêtre comme s'il était le Christ qui parlait, qui agissait, même en dehors de ce pourquoi il a été missionné. Alors, question suivante, question numéro 324. Quelle est la place du sacrement de l'ordre dans le dessein divin du salut? Dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations de ce sacrement. Le service des Lévites, de même que le sacerdoce d'Aaron et l'institution des 70 anciens, dans le livre des Nombres, ces préfigurations ont leur accomplissement dans le Christ Jésus, qui, par le sacrifice de la croix, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est une citation de la première épître de saint Paul à Timothée, 2:5. Donc, ces préfigurations ont leur accomplissement dans le Christ Jésus, qui, par le sacrifice de la croix, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek, et ça c'est une citation de Hébreux 5:10. L'unique sacerdoce du Christ se rend présent par le sacerdoce ministériel. Alors, là encore, c'est toute la théologie du sacerdoce, la théologie biblique du sacerdoce qui pourrait être mise en évidence. Donc, première chose, dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations de ce sacrement de l'ordre. Donc ici, c'était le service des Lévites. Vous vous souvenez peut-être que la tribu de Lévi avait été désigné parmi les 12 tribus pour faire des prêtres, pour que ce soit eux en charge de tout le culte dans l'Ancien Testament. De même que le sacerdoce d'Aaron et l'institution des 70 anciens, ça c'est pour le peuple juif, dans le livre des Nombres, des recommandations cultuelles, mais il y a aussi d'autres préfigurations du sacerdoce qui ne sont pas mentionnées ici. On peut mentionner par exemple Abraham, des Abraham, le sacrifice. Vous vous souvenez cet épisode très étonnant de l'Ancien Testament où Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, son fils Isaac. Et donc Abraham est prêtre dans ce sacrifice. Alors évidemment, l'ange arrête la main d'Abraham, mais Abraham allait obéir à Dieu, parce que si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui sait ce qu'il faut faire. Évidemment, il faut une foi. Disons, si quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit de sacrifier mon fils », il faut mieux le mettre en prison tout de suite, le faire voir un psychiatre. Là, c'est un cas tout à fait particulier, alors qui est de l'Ancien Testament. Il y a une dimension évidemment symbolique et spirituelle. Mais de fait, c'était Dieu vraiment qui l'avait parlé, et Abraham, parce qu'il était, il avait la foi, une fois qu'il le mettait au contact de Dieu, savait que c'est Dieu qui agissait, qui lui demandait de faire quelque chose. Alors, il ne comprenait pas, évidemment, ce que Dieu lui demandait, mais il le faisait avec obéissance et foi. En sachant que Dieu allait trouver une solution à ce qui lui semblait logiquement et raisonnablement être complètement fou. Mais, vous savez, donc, l'ange intervient, arrête la main d'Abraham et il y a un agneau qui apparaît dans les buissons et il lui dit sacrifie cet agneau. Évidemment, c'est symbolique, ça signifie Dieu qui offre son fils en sacrifice, le sacrifice de la croix. C'est Dieu le Père qui envoie Dieu le Fils qui vient lui-même dans la personne du Fils pour s'offrir en sacrifice. Et vous comprenez le rôle de l'agneau de Dieu. Je crois qu'on a déjà parlé dans d'autres circonstances, mais l'agneau divin, c'est l'agneau pascal, l'agneau, vous savez, qui a été mangé le jour de la Pâque, de la sortie d'Égypte avec Moïse. C'est cet agneau le Christ qui se fait doux comme un agneau, selon les prophéties d'Isaïe. Et puis c'est l'agneau mystique de l'Apocalypse, qui est devant lequel tous les vieillards se prosternent. Donc l'agneau, c'est l'image du Christ, et cet agneau qui va substituer, qui va représenter donc le fils sacrifié, le fils d'Abraham sacrifié. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on pourrait développer ça de façon très très développée. Donc Abraham lui-même déjà réalise un sacrifice. Ensuite, il y a aussi les sacrifices que font tous les patriarches de l'Ancien Testament. Il y a aussi le sacrifice de Melchisédek, donc qui va être cité un peu plus loin. Melchisédek, c'est ce personnage très étonnant qui apparaît à un moment dans la Sainte Écriture et qui offre un sacrifice sur un autel. Et donc c'est l'image du prêtre, l'image du grand prêtre, et qui vient manifester l'œuvre sacerdotale, le rôle, la mission du prêtre, qui est de sacrifier quelque chose à Dieu en signe d'adoration, du culte que les hommes doivent rendre à Dieu. Alors évidemment, le seul vrai prêtre, dit saint Thomas d'Aquin, le seul vrai prêtre, c'est le Christ. Et les uns et les autres, aussi bien ceux qui l'annonçaient dans l'Ancien Testament que ceux qui poursuivent son ministère dans le Nouveau Testament, à savoir les prêtres de l'Église catholique, nous ne sommes que des ministres de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre prêtre au sens strict, au sens total, que le Christ, et ceux qui sont ordonnés à être des ministres de l'unique sacerdoce du Christ. Donc, ce sacerdoce du Christ se rend présent par le sacerdoce ministériel. Comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi. Je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.